22 février 1678, rue Neuve des Petits Champs, à Paris. Un gentilhomme descend de sa voiture et monte les marches qui le mènent à l'hôtel particulier de Madame de la Sablière. Un feu généreux crépite dans la grande cheminée de son salon où elle reçoit, comme chaque mardi, mesdames Ninon de l'Enclos et Marie de Sévigné, messieurs Boileau, Fontenelle, le duc de Lauzun, le duc de la Rochefoucauld, Talmant des Réaux sont parmi les meilleurs. L'église Saint-Roch sonne la fin des vêpres. Dans le cabinet de musique, Madame de Thianges déchiffre au clavecin le dernier prélude non mesuré de Louis Couperin.
Cette princesse de Clèves va devenir le roman du siècle. Marie-Madeleine a bien du talent.
Quelle Marie-Madeleine ?
Lafayette.
Ah, la protégée du cardinal de Ré.
À moins que monsieur le cardinal ne fût le protégé de la comtesse.
Madame de la Sablière est très en beauté aujourd'hui. Elle a des cheveux d'un blond cendré, le plus beau qu'on puisse imaginer. Les yeux bleus, doux et brillants, quoiqu'ils ne soient pas grands. Le teint vif et uni. La peau d'une blancheur à éblouir. Les plus belles mains et la plus belle gorge du monde. Joignez à cela des manières obligeantes qui sont si fortes de vous qu'il serait difficile aux autres de les imiter.
Mathurin, faites servir le chocolat.
Bien, madame.
Des pas lourds et lents résonnent dans l'escalier. L'assistance porte les yeux vers un homme qui apparaît, grand, vêtu de gris et de parme. Sa perruque châtain n'a pas été recoiffée, elle est un peu défraîchie. Il a des yeux sombres, entrouverts sous des paupières lourdes, et un nez bourbonien à l'arête bien dessinée. Les invités ont promptement reconnu La Fontaine. Madame de la Sablière se lève pour l'accueillir.
Le roi a parlé de vous hier, en bien.
L'abbé de Choisy en a toussé plus d'une heure durant.
La Fontaine fait un baise-main appuyé à sa protectrice. Certains hommes de l'assistance s'interrogent. Est-il son amant, ce poète? Ce fêtard qui vieillit sans avoir su se ranger à temps, ce marginal qui profite sans se priver des largesses de notre marquise. Et c'est que le statut de poète est précaire dans une société dont le fondement n'est pas le mérite, mais la naissance.
Parlez-en à la marquise. Vous savez qu'elle ne vous refuse jamais rien.
Vous voulez dire qu'elle me refuse tant de choses depuis si longtemps?
Notre ami La Fontaine vient de mettre la dernière main à une fable des plus amusantes. Les femmes n'y sont pas trop bien traitées.
Peut-on me faire...
Mais comme à l'accoutumée, pour se faire pardonner ses sarcasmes, monsieur le poète nous dit qu'il ne s'en est servi qu'après Phèdre, ou Horace, ou Ésope, ou Abstémius.
Que la vérité vous donne d'éloquence.
Mon ami... Faites-nous donc sonner ces vers que j'ai si fort appréciés en les lisant par-dessus votre épaule. En avez-vous arrêté le titre ?
La rumeur, madame, ou les femmes et le secret, c'est selon.
Nous vous écoutons.
La marquise se rassied à côté du duc de la Rochefoucauld, ravie d'entendre son ami La Fontaine. Le poète regarde l'assistance. Il n'a besoin d'aucun papier. Car son histoire de mari, faisant croire à sa femme qu'il a pondu un œuf, l'occupe tant depuis 2 jours que sa mémoire en est pleine. Il prend une profonde respiration. L'assemblée fait silence.
Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf? D'un œuf. Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maint autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf, gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'eux, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un 100.
La Rochefoucauld rit de bon cœur, applaudit chaleureusement, et les invités se joignent à lui, sauf les jaloux. La fontaine s'incline légèrement, embrasse de nouveau la ravissante main de la marquise et remonte dans ses appartements, travailler à la fable 5 du livre 10e, Le loup et les bergers.